collègues, la séance est ouverte.
Radio Vélo, en ce 4 mai, ça y est, le mois de mai est attaqué, le soleil est là et revenu, bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
À nos côtés, Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Un spécialiste matériel qui est venu accompagner Julien.
Ouais, de Sylvain, avec deux micros, Sylvain Lapointe. A passé de un qu'il en prend deux.
Ah, il a l'air bavard vu qu'il a deux micros. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir à tous.
Sylvain, donc, que Guillaume va présenter pendant que Benjamin s'installe.
Sylvain, je sais pas comment le présenter.
Ouais, c'est un copain à toi, quoi.
Ouais, c'est un ami à moi et à Julien, parce qu'on se connaît.
Il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on se connaît avec Sylvain.
On roulait ensemble il y a 20 ans, ça ne revenait pas. et maintenant, Sylvain comment te définis vendeur?
Ah, t'es pas que vendeur. Je suis vendeur, oui, enfin vendeur.
Technicien. Au Culture Vélo de Blagnac. Donc voilà. Pour ceux qui veulent faire des achats, et ben accessoirement, il connaît un peu tout sur le vélo, que ce soit la route, le VTT,
un peu le contre-la-montre.
Voilà, donc je pense qu'il va.
Un peu de contre-la-montre, oui.
Il va nous aider ce soir à animer un peu l'émission.
Et donc, il vient d'arriver, on a eu peur que les bouchons
qui ont réparé la voiture.
Pas vraiment, non, c'est une voiture de substitution et en effet il y avait des bouffons de tous les côtés, j'ai cru que je n'allais pas arriver.
Et bien toi tu es arrivé, mais
bonsoir tout le monde.
Mélanie ne franchira pas la ligne d'arrivée aujourd'hui, elle a déclaré forfait, faute bouchon du côté de la Belge.
C'est horrible. Hein.
Vivement une évolution des transports dans la banlieue toulousaine. On va pas parler de ça, on va pas parler de transport là, c'est bon.
On voulait dédier aussi cette émission, Nico, à notre cher Florent Saint-Duc qui est parti aujourd'hui.
Oui.
La victime d'un accident sur le circuit Boussacan le 25 avril et voilà aujourd'hui il est parti rejoindre d'autres, donc une grosse pensée à sa famille et donc voilà on voulait faire un gros clin d'œil à lui. On l'avait interviewé déjà sur cette émission il y a quelques temps déjà, on l'avait vu au championnat Midi-Pyrénées à
C'était la Ville de l'Omagne.
Je crois que c'était la Ville de l'Omagne qu'on l'avait aussi.
Voilà, il a terminé de deuxième et sur le Dailymotion Radio Vélo, j'aurais écouté tout à l'heure l'interview. Oui, quelqu'un de très sympathique, un vaillant, un teigneux, comme certains le décrivaient. J'ai vu sur le site
Sud Giro notamment. Ouais, tous les superlatifs.
Et puis surtout, malheureusement, ils rejoignent les nombreux autres échappés de cette terrible année 2016. Je sais pas si vous voulez rajouter un mot sur Florent Saint-Duc. Bien évidemment, on pense très fort à sa famille, à ses proches, à sa compagne. Et nous pouvons rien faire d'autre que lui dédier cette émission.
Chers collègues, la séance est ouverte.
Et le débat du mercredi, on va y venir bien évidemment tout à l'heure pour parler du Giro. On essaiera d'avoir au téléphone notre ami Alexandre Géniez, le ruthénois qui avait terminé 9e du Tour d'Italie l'an dernier avec l'équipe FDJ. On présentera également dans la deuxième partie de l'émission, après la chronique matos et la minute régionale, on présentera la rando rallye de Novial avec Jean-Claude Ponce, le membre du comité des fêtes qui organise cette épreuve exceptionnelle. C'est Guillaume en deux mots, hein, c'est du vélo, mais pas que.
Moi, j'y ai jamais participé, mais bon, Sylvain m'en a souvent parlé. Bah, il pourra peut-être en parler mieux que moi. On va dire, il y a plus de ravitaillement que de kilomètres, je pense.
D'accord, bon, c'est
une des rares épreuves où on mange plus de calories qu'on en consomme.
Bon, c'est plutôt
ça tirait bien, ça, Nicolas.
C'est plutôt bien, j'ai noté la date. En tout cas, voilà, on va en parler. On va donner aussi nos petits pronos pour le Giro. Vous avez les codes devant vous, messieurs, vous ne pourrez pas vous débiner. Mais retour un petit peu sur les dernières semaines. Peut-être avant d'attaquer la Romandie et le Giro, vu que, bon, Radio Vélo, on ne fait pas les choses comme tout le monde, peut-être un crochet par les amateurs pour avoir l'œil de Julien sur le Tour du Jura, une épreuve que tu as eu la chance de vivre de l'intérieur.
Ouais. Je ne sais pas
si c'est une chance physique, étant donné que ça a dû être assez éprouvant, mais en tout cas, c'était une superbe expérience.
C'est une superbe expérience, c'est une superbe épreuve avec un plateau très très relevé. Il n'y avait que 120 coureurs au départ, mais voilà, les meilleures équipes étaient là présentes, des équipes belges étaient aussi présentes. Un parcours très difficile, 3 étapes. Première étape, pas avec des cols, ils ont fait la première journée sur 120 ou 130 bornes, ils ont fait 2200 mètres de dénivelé. Ça parlera à certains. Déjà, une domination de Sylvain Georges et j'ai perdu le nom du coureur de Chambéry. Oh, en
fait. Nance Peters, non?
Nance Peters, voilà, qui a fait un tour du Jura phénoménal. Donc déjà la première étape avec du soleil, donc ça a été dur mais très très disputé. Ça, il y a toujours eu d'échappées. Jamais elles ont compté plus de 45 secondes. Ça oscillait entre 30 et 45 secondes. Ça roulait tout le temps très très fort. On avait deux équipes régionales qui étaient présentes, l'Occitane Cyclisme Formation et Blagnac Vélosport 31 qui étaient là présentes. Avec le retour de Romain Campisrou, etc. Donc. Ça bagarrait très très fort le vendredi. Le samedi, étape de montagne où ça arrivait au Rousse après 160 km d'étape. Donc on est parti du village qui s'appelle Champagnole avec une condition pas forcément du grand soleil, mais il faisait 15-16 degrés. Et on est arrivé à la station des Rousses, il devait faire 2-3 degrés et ça faisait 80-90 bornes qu'on prenait la pluie sur le plateau qui nous mène aux Rousses. Quasiment 55 abandons sur cette étape-là. Certains coureurs qui ont abandonné jusqu'à 5 km de l'arrivée, 3 cas d'hypothermie à l'arrivée. C'était une étape... j'ai jamais connu des conditions aussi difficiles que ça. Ça m'est arrivé une fois sur l'étape du Tour, on faisait l'histoire Saint-Flour, où il y avait eu sur le premier ravito 2000 abandons et 4000 au total. Là, sur une course élite amateur de plus haut niveau, moitié peloton qui arrête, j'ai jamais connu ça, quoi. Étape très difficile, et les croix d'étupe vraiment très très costaud. Léo Vincent qui gagne l'étape magistrale tout seul devant, il n'a pas trop craint du froid, c'est qu'on croit qu'il fait beaucoup de ski de fond. Il s'est régalé quoi, sur cette étape-là qui était très difficile, et pourtant derrière ça n'enfilait pas des perles, ça roule très fort. Il a su garder son maillot. Le lendemain, c'est le petit Doubé qui gagne aussi. Une étape raccourcie parce que les conditions météo n'ont pas permis d'emprunter tout le circuit. Et avec 50 coureurs au départ, 160 km, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, ils avaient raccourci à 90 km, mais un parcours très, très difficile. De la pluie en permanence, du froid.
Une très belle organisation, t'as apprécié?
Très bon accueil des gens du Jura, de Laurent Moron-Morolin qu'on a vu la semaine dernière. Un excellent accueil. Hein. Moi, j'ai été super bien accueilli. Et c'est la première fois que j'arrivais sur cette épreuve-là. L'organisation parfaite, bien maîtrisée, digne d'une épreuve continentale, sans aucun souci. Parcours magnifique, très très dur. Les Juras, c'est pas facile. C'est pas l'autre montagne, mais c'est pas facile. Vraiment un circuit, on va dire, une course un petit peu à l'image un petit peu de la Ronde de l'Isard. Très très difficile parce qu'on aura une Ronde de l'Isard qui sera difficile aussi cette année. Mais ouais, je me suis vraiment régalé. Dommage que les conditions météo étaient pas de la partie, mais on a eu une course hyper animée. Je dirais que même le dernier jour, il y avait que 55 coureurs au départ. Dès le départ donné, ils ont tous fait la course, ça a attaqué jusqu'à l'arrivée. Les coureurs n'ont jamais baissé les bras malgré le mauvais temps qu'il y avait. Donc vraiment, ouais, on s'est vraiment régalé quoi. Après, quoi dire de plus?
C'est déjà très bien, ça donne un petit peu la carte postale de
ce que... Ouais, j'espère revenir l'année prochaine parce que voilà, c'est vraiment une superbe épreuve, comme l'aileron de l'Isard. Voilà, on a beaucoup d'amateurs qui vont vraiment jusqu'au bout et on s'est vraiment régalé.
Bon, très bien. Benjamin, lui, il était sur son forum pendant que tu étais sous la neige.
Oui.
Avec nos amis de Vélo Club du Net qui sont très nombreux.
J'y étais mieux.
Et on les remercie à nous suivre. La fin du Tour de Romandie, le Giro, ça s'enchaîne. On ne voit pas le temps passer. Les 4 jours Dunkerque aussi, je vois que Coucard les a attaqués à tambour battant. On va présenter le Giro. On va donner un petit peu notre avis, nos attentes aussi. Qu'est-ce qu'on espère voir sur ce 99e Tour d'Italie, mais le Tour de Romandie, qu'est-ce que tu en as retenu, Benjamin?
Que c'était bien.
C'était bien?
C'était sympa, des conditions météo assez mauvaises, un Chris Froome qui attaque de loin, oui. ce qui est très rare, qui attaque de loin deux fois, puisqu'il remporte l'étape en solitaire lorsqu'il s'échappe avec TJ Van Garderen, et le lendemain, il s'échappe à nouveau dans un groupe où il y avait notamment Albasini et Bardet. Donc, on a pu le voir dans un rôle différent puisque il n'avait il avait été lâché du peloton assez tôt, c'était la deuxième étape, suite à une crevaison, ensuite il n'avait pas pu rentrer. Et on a vu les favoris qui sont attaqués, Thibaut Pinot qui a attaqué de nombreuses fois samedi, Quintana qui a vraiment bien maîtrisé. Non, vraiment, je trouvais que c'était une belle course.
Les forumers, est-ce qu'ils en ont parlé un petit peu ou ils sont déjà tournés sur le Giro?
Ça en a parlé, ça forcément fait le lien avec le Tour de France, puisqu'il y avait pas mal de coureurs qu'on verra sur la route du Tour. Donc on a reparlé du parcours du Tour de France qui est très bien, mais sinon oui, après bien entendu, là tout le monde est tourné sur le Giro.
Le Giro, bien évidemment, forcément. On ne retrouvera pas les mêmes, hein, parce que les Quintana qui a remporté ce Tour de Romandie, Pinot deuxième, ou encore Froome qui a donc claqué son étape, qui a montré qu'il était là quand même, qu'il ne fallait pas l'oublier. Ils n'y seront pas sur le Giro, en revanche certains y seront, hein, Dumoulin, Zakarin, tout ça sera sur le Giro. Mais voilà, encore une étape de passé pour Thibaut Pinot, peut-être. Malheureusement, c'est souvent des podiums.
Et pas si souvent sur le World Tour. Je crois que c'est son premier podium.
Voilà, mais c'est au Tour. De des fois, c'est 4, 5, 6. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ce soit plus souvent tout en haut de l'affiche, hein, du côté de
Thibaut. Et un Pierre Latour qui a été très, très fort également, qui remporte le classement des jeunes. Donc, on était plus focalisé sur Thibaut Pinot, mais il fait 13e ou 12e, je crois, Pierre Latour au général. Et vraiment, pour sa première année où il fait des épreuves au World Tour, c'est assez formidable ce qu'il fait.
D'autres choses à retenir de ce Tour de Romandie ou on se tourne vers le Tour d'Italie, Benjamin?
Alors, je pense qu'on peut se tourner vers le Tour d'Italie.
Tournons-nous.
Je réfléchis, mais...
Et oui, ça note en plus aujourd'hui.
Hein, je suis tout au mental.
Faut arriver plus tôt. Donc le Tour d'Italie, 99e du nom. Bon, personnellement, c'est vrai que c'est l'une des courses que j'attends le plus d'impatience en tant que téléspectateur. Hein, parce que oui, il y a souvent du spectacle sur le Tour d'Italie.
Il n'y a pas Thierry Adam.
D'ailleurs, une grosse pensée aussi à Gérard Rolls, hein, qui a annoncé que ça y est, hein, il quittait France Télé. Donc,
fin 2016.
Voilà, donc les gars, je vais en licencier 2, on va prendre GG à votre place. Hein, bon. Mais plus sérieusement, non, c'est pas vrai, je vous garde, vous n'êtes pas très cher. Bien sûr, c'est du spectacle, le Tour d'Italie, non? Tu partages aussi cette avis?
Moi, je suis...
T'es un pro Tour de France, ce Tour de France, ouais, c'est une autre course. Mais par contre, au Tour de France, il y a Chris Froome, bon, mais la première étape de montagne, bam! Voilà, ça c'est dommage.
L'an dernier, Alberto Contador également a vite écrasé. Heureusement, il y avait Astana qui ont tenté de le harceler, mais hormis la dernière étape sur Sestrière, il a quand même dominé de la tête, des épaules et de genoux même le Tour d'Italie. Donc pour cette année, il y a un départ aux Pays-Bas. Donc c'est assez spécial, hein, le Giro qui est assez délocalisé. Donc on risque de voir Tom Dumoulin sur le prologue peut-être se parer de rose. Et après, pour les favoris, si on peut commencer déjà à en parler... Pour ma part, je pense que Vincenzo Nibali sera devant. Pour le moment, il n'a pas fait de grands résultats, mais en 2014, avant le Tour de France, il n'avait pas fait trop de résultats non plus. Je pense qu'on va voir du Michael Landa éblouissant en montagne, de ce qu'il a montré cette année, notamment autour du 31. Certains le comparent un peu à Pantani, quoi. Bon, je ne pense pas qu'on en est déjà là, mais tout de même, j'espère qu'il n'aura pas le même destin. Michael Landa.
De Michael Landa, oui, d'accord.
Et après, par contre, dans les favoris qu'on cite, je pense que Zakarin ne fera rien. Déjà parce qu'il a rien prouvé sur Grand Tour. Il est plus dans un type Richie Porte parce qu'il est sur la brèche depuis fin mars. Et je pense qu'en troisième semaine, là où il y aura les étapes les plus dures, qui sont d'ailleurs assez marrants en France, les deux étapes les plus dures, avec notamment le Col d'Agnel et la cime de la Bonnette, enfin, s'il n'y a pas de la neige, hein, parce que c'est fort possible que l'étape soit raccourcie, voire annulée.
Déjà que dans le Jura, il y a de la neige.
Ouais.
Oui. Méfiez-vous.
Donc voilà, je pense qu'on risque de voir Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde qui sera forcément placé, puisque toutes les courses qu'il fait avec un objectif, il est placé. Et Michael Landa. Et pour les Français, je vois Perrault dans les 5 et Genies dans les 10. Allez, pour lancer là, vu que j'ai pas trop de notes, je sais pas trop quoi dire.
J'inverserais, je dirais plutôt, je compte plus sur Alexandre Ginès que sur Jean-Christophe Perrault, même si j'espère qu'il nous fera quelque chose de beau, mais vu le parcours avec des chronos, pas pour que les rouleurs.
Ouais, c'est des chronos quand même.
Des chronos très costauds. Je pense qu'Alexandre peut faire mieux que l'an passé. Vu le plateau aussi.
On va poser la question à Sylvain, je sais qu'il est proche de Jean-Christophe. tu l'as eu récemment, non? Tu sais un petit peu son état, un petit peu de forme?
Non, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu. Après, c'est vrai que, comme l'année dernière, il avait quand même marché en début de saison sur Paris-Nice, sur des choses comme ça. Cette année, bah, il se cherche un peu. C'est pas forcément évident de trouver la motivation quand on fait deux du tour. Après, pour se dire, aller chercher des podiums sur des grands tours, c'est un peu délicat. On sait aussi, enfin, pour le connaissant bien, on sait très bien aussi comment ça fonctionne et que c'est pas toujours évident de jouer à armes pas égales. Donc, trouver de la motivation à presque 40 ans sur des tours où les jeunes arrivent en force, c'est toujours délicat.
Jean-Christophe Perrault, Alexandre Géniez, voilà, c'est les têtes d'affiche française.
Arnaud Desmar,
qui malheureusement sera confronté, enfin, tant mieux, c'est toujours mieux. Il y a quand même pas mal de bons sprinteurs qui viennent. Kittel, Greipel, j'ai vu, ils seront là. Bah, mais c'est très bien qu'ils fassent le Giro et pas le Tour.
Mais ce qui risque d'être compliqué pour Arnaud Desmar, c'est que depuis le Tour des Flandres, il a pas couru. Donc, est-ce qu'il va pas manquer un peu de rythme?
Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Il va peut-être arriver avec de la fraîcheur et du jus, justement, et c'est peut-être ce qui va lui permettre ce petit déclic, justement, d'aller vraiment chercher, peut-être, ses gagnes que quand il est un peu émoussé, il va pas les chercher, tu
vois. Ouais, c'est possible. Après, je me dis, est-ce qu'il a bien pu s'entraîner directement puisqu'il était blessé au Tour des Flandres?
C'est pas grave, question, sur un tour de trois semaines, t'as le temps de te préparer, et tu sais, c'est toi, c'est long, trois semaines.
Ouais, mais après, tu sais, le Giro, j'ai regardé les étapes, hormis les deux premières en ligne qui sont toutes plates, donc aux Pays-Bas, c'est très vite avec des petits cols, là, comme ils aiment bien faire les Italiens, avec des côtes de 2, 3, 4 kilomètres à 5-6%, et forcément, ça écrème. Alors, on sait qu'il aime pas trop ça, comme Marcel Kittel, mais Marcel Kittel, il va arriver en pleine bourre, puisqu'il a gagné sur le Tour de Romandie, si je me dis pas de bêtises.
Oui, enfin, Desmar en a claqué une bonne il y a pas longtemps, il me semble, avec des cols en Italie.
Milan-San Remo.
Alors bon, je veux bien qu'il passe pas, mais enfin, bon. Allez.
Non, bien évidemment,
il
aura la possibilité de remporter une étape.
C'est vrai que, ouais, dès le jeudi, là, avec, il y a l'ascension, la Boca di Seva, là, ça va arriver à Rocamadour. Rocamadour, c'est pas là, mais bon, déjà, là. Mais après, il y a encore quelques étapes, ouais, c'est vrai, de montagne. Après, on va retrouver un peu plus d'étapes de plaine. Ça lui va lui laisser le temps de se préparer, à mon avis.
Guillaume, toi qui vas régulièrement en Italie, dis-nous des nouvelles de ce Giro.
Non, ouais, j'ai même pas trop regardé. C'est vrai que moi, les courses, je regarde pas trop les parcours ni rien. Comme en plus, on sait que souvent, le Giro, c'est très dépendant des conditions météo. Donc, on sait même pas les étapes, si elles seront au complet, s'il y aura des cols. Ça se trouve, ça sera trois semaines de plat. Donc,
Et puis, l'une des étapes les plus dures sera d'ailleurs en France, avec une arrivée, du côté de là où Nicolas Vaugoni s'était imposé sur le Dauphiné, Risoul.
Rizoul, par de là le col d'Aniel, qu'on avait vu au Tour de France 2011.
Dans l'autre sens.
C'était dans l'autre sens.
Oui.
Ouais, mais un col qui est vraiment très dur dans ces 7 ou 8 derniers kilomètres, je crois, qui sont à plus de 8 ou 9%, et surtout avec une altitude très très haute.
Ça monte pendant 60 bornes, ça monte quand même, parce que à partir du kilomètre 40, alors certes, c'est pas des gros pourcentages. Mais jusque pendant 60 bornes, ça fait que monter pour arriver au sommet du col d'Aniel, quoi.
C'est à combien d'altitude?
2000, je crois, non?
Et tes fiches, Benjamin,
2144.
Ouais. Bon, là, ça va, mais alors là, s'il me donne la bonnette, j'ai peur que ce soit sous la neige.
Bon, en tout cas, ce Tour d'Italie, un plateau, comment tu juges ce plateau avec Nibali, Landa, Valverde quand même, qui vient faire ce Giro, Zakarin, l'attraction, Rigoberto Urán comme d'hab pour faire deux, Machka, Dumoulin, qui est quand même une attraction, Dumoulin également, c'est vrai que ça risque d'être plus difficile que la Vuelta, par exemple. Moi, je pense qu'il peut vraiment gagner des courses d'une semaine quand le parcours lui convient. Il y a Pozzo Vivo, Fuglsang, Esteban Chavez, qui avait fait de très belles choses la saison dernière.
Et rien cette année.
Notre ami Betancourt, il y va
Oui, oui. Au début, il n'était pas prévu. Oui. Et puis, vu qu'il gagne, il gagne.
Il vrai qu'il va marcher là.
Un ancien vainqueur, Kunego, bon, non, je plaisante, ça va être difficile. Mais Esredal, Ryder, oui.
Commence à être vieux.
En tout cas, pour moi, le podium de Valverde est très probable.
Ouais, je le vois plus troisième que plus haut.
Oui, moi aussi troisième.
Parce que
on a un petit peu lancé les pronos là.
Après, par contre, le parcours est un peu entre guillemets original. On a parlé des deux étapes les plus dures en France. Il y a comme col mythique du Giro seulement le Passo Gio. Parce que tout simplement, ce Tour d'Italie a le mauvais numéro, c'est-à-dire le 99, et il réserve la plupart des cols mythiques pour la 100e édition. Oui. Le Stelvio, tout ça. Je pense que ce sera plus pour l'an prochain.
ça sera peut-être plus pour l'an prochain. En tout cas, on va suivre ce Tour d'Italie. Vous voulez donner un petit peu vos pronos avant qu'on fasse la première coupure et qu'on ait notre ami Alexandre Gignaz au téléphone.
Tom Dumoulin, premier maillot rose.
Premier maillot rose, pas Cancellara.
Ouais. Non, pas Cancellara.
Cancellara, j'aurais jamais réussi à le dire, le pauvre.
Et après, là, j'ai pas les étapes en tête, mais je dirais la première arrivée au sommet, ça sera 30 coureurs qui vont arriver ensemble. Parce que c'est une montée plate.
Heureusement qu'on enregistre.
C'est comme montée virginée, donc ça va être décevant pour les suiveurs. On va rager devant le poste de télé. Mmh. Et après, c'est compliqué, mais je pense que Nibali va quand même écraser la concurrence, comme il a fait au Tour de France 2014.
Nibali pour Benjamin à 2,50 sur Unibet, si vous voulez parier. On fait le tour de table, Guillaume.
Nibali aussi.
Nibali aussi, c'est très original. Donc à 2,50. Raphaël Machka, que je ne vous ai pas cité aussi tout à l'heure, qui est là. Machka pour Julien, ouais. Là ça vaut le coup. Pour 10 euros, la cote est à 17 contre 1. Ça fait quand même du 170 euros, c'est pas Leicester au foot, mais c'est quand même pas mal. Sylvain ?
Oui, moi j'allais jouer Leicester aussi. Vu la cote, c'était toujours intéressant, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, moi par habitude, je vais quand même mettre une petite pièce sur Cancellara pour le prologue.
Pour le prologue.
C'est son dernier. On peut pas dire que ce soit troué pour les classiques, parce qu'il était quand même devant, mais il n'a pas forcément non plus bénéficié de tous les atouts qu'il pouvait avoir.
Ouais.
Donc je pense qu'il va quand même le faire comme il faut.
Oui.
Pour le général, je vous laisse faire.
Pour le général, c'est difficile de se mouiller sur un autre nom que Nibali. Paradoxalement, je ne pense pas que Nibali va remporter ce Giro, mais j'ai du mal à vous dire qu'il va le gagner pour autant.
Mais en cours.
Je vais vous proposer plutôt la cote d'un podium de Valverde à 2,25. C'est quand même pas mal. Ça double un peu plus que doubler votre mise. Et d'ici la fin de l'émission, j'essaye de vous donner le vainqueur de ce prochain Giro. On va faire un premier crochet vers les studios de C'est ta radio. C'est ta radio, bien évidemment, que vous retrouvez tout au long de la journée, le son de C'est ta radio avec,
C'est ta radio. Pop, rock, sport, exclusivité, le jeudi à 19h, en rediff, le samedi 20h, ainsi qu'en podcast. L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Car la retourne, retourne-la.
Et de retour dans Radio Vélo en direct en ce 4 mai, et après avoir présenté le Giro, un petit peu nos attentes, qui de mieux pour en parler qu'Alexandre Géniez, le meilleur français du dernier Tour d'Italie. Il avait fait 9e avec l'équipe FDJ. Alex, est-ce que tu nous entends ?
Ouais, je vous entends, ouais.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes pour nous donner un peu de tes nouvelles. Donc déjà arrivé du côté des Pays-Bas où aura lieu le départ du Giro, c'est ça ? Tu es arrivé hier ?
Ouais, exactement, voilà, on est arrivé hier en fin d'après-midi, voilà.
Du coup, pas trop le temps de se poser entre le Tour de Romandie et le Giro, j'imagine.
Ça a été court, le passage à la maison était succinct, mais après, voilà, je sais que l'enchaînement, voilà, puis cette année, vu que le départ du Tour d'Italie est le vendredi, c'est encore plus court que les autres années, mais bon, après, voilà, j'avais prévu à l'avance, donc voilà.
Voilà.
Comment
tu ressors du coup de ce Tour de Romandie ? Est-ce que tu as trouvé un petit peu ce que tu cherchais en termes de sensations et puis aussi en termes d'objectifs avec l'équipe ?
Ouais, alors ça s'est très très bien passé collectivement. C'est vrai que le Tour de Romandie, ça a été une grande réussite. Hein. Après moi je ressors quand même bien fatigué. C'est vrai que j'en parlais avec l'entraîneur. C'est vrai que l'année dernière je sortais j'étais à l'approche du Giro. Peut-être un peu moins en forme, mais par contre beaucoup plus frais, quoi. J'avais moins couru, et c'est vrai que voilà, je me sentais un peu plus frais. Donc c'est un petit peu l'hypothèse aujourd'hui. La condition, elle est là, et autour de Romandie, voilà, j'étais en bonne forme, donc c'est rassurant aussi de ce niveau-là.
Julien, peut-être une question pour Alex.
Bonsoir Alex. Je suis déjà en place. Je suis surpris qu'il soit déjà en place. C'est vrai que bon, on est mercredi. T'as déjà reconnu le parcours du chrono déjà ?
Non, j'ai reconnu ce matin. On a été tout le groupe là à reconnaître le parcours du final de dimanche. Et après, bon, moi j'ai coupé parce que je voulais pas faire long aujourd'hui. Et les autres ils ont été reconnaître aussi le final de samedi. Mais en fait, on est, ouais, les équipes sont obligées d'être d'arriver le voilà trois jours, enfin ouais, d'arriver trois jours avant la course parce, pour les grands tours, parce que le voilà l'avant veille de la course, il y a le contrôle antidopage pour tous les coureurs.
D'accord, donc obligé de s'organiser également par rapport à ça.
Ouais. Exactement, voilà, ouais, donc tout le monde arrive, enfin là par exemple, tout le monde est arrivé le mardi soir parce que ce matin du coup on avait un contrôle.
D'accord. Benjamin, une question ?
Oui, bonjour Alexandre. C'était pour savoir, vu qu'on parle des conditions météo pas faciles, notamment en Romandie, et on ne sait pas qu'est-ce que ça sera sur le Giro, savoir quelles conditions tu préférais, vu que je te suis sur Strava et je vois qu'autour de Rodez, c'est souvent des températures qui sont assez froides. Est-ce que tu penses que ça te prépare
Ouais, c'est... Non, après, on peut pas dire que voilà, qu'on espère qu'il fasse beau ou mauvais, quoi. C'est vrai qu'à Rodez, il fait pas forcément beau, même si on a eu un hiver relativement doux cette année. Après, autour de Romandie, là, voilà, on a vraiment eu des températures très froides. On a eu la neige un jour, l'étape raccourcie. Moi, voilà, ce que j'espère, c'est qu'on fasse deux semaines au moins avec le beau temps, ce qui est a priori envisageable, puisque bon, on fait trois jours aux Pays-Bas où il va faire beau, et après, on remonte l'Italie, je crois, ça fait presque 10 étapes. Donc, en gros, les deux premières semaines, dans le sud de l'Italie, a priori, on devrait avoir, a priori, je dis bien, on devrait avoir beau temps. Donc après, voilà, après, on sait que la dernière semaine, c'est le nord de l'Italie, c'est les Alpes, tout ça. Bon, là, faut pas compter avoir beau temps. Enfin, je sais très bien qu'on prendra la pluie, peut-être la neige. Voilà, ça, c'est d'avance, d'office, on sait que, voilà, qu'on va y être confronté.
Julien ?
Ouais, Alexandre, est-ce qu'il y a des étapes que t'as cochées plus que d'autres ?
Je sais pas, étudier vraiment dans le détail les étapes. Après, ouais, il y a des étapes qui me plaisent. L'étape 13 notamment, voilà, elle est pas mal. Après, ouais, je sais pas, ouais, j'ai fait ça, je dis ça parce qu'on l'a regardé à midi. C'est vrai qu'elle est difficile. Et puis bon, c'est pas une arrivée au sommet. Mais bon, après, voilà, faut avoir aussi les opportunités, comment ça se présente. Des fois sur le Giro, voilà, l'échappée elle va au bout et du coup il y a pas l'étape est pas à jouer. Après, moi je pars dans l'optique de jouer le général. Et après voilà, si je peux jouer une étape ou quoi là-dedans, ça sera que du bonus quoi.
Et justement, ben, par rapport à, pour comparer un petit peu avant le départ avec ben, aussi bien le parcours que le plateau de l'an passé, là on parlait un petit peu des coureurs à suivre, hein, autre que toi et puis tous les Français, Nibali, Landa, Valverde qui vient sur le Giro, Zakari, Nouran, Machka. Est-ce que toi, il y a des coureurs que tu côtoies dans le peloton qui pour toi sortent vraiment du lot pour ce Tour d'Italie?
Ouais, je pense que le premier, voilà, c'est Zakarin. Je pense que c'est peut-être le favori, quoi. Après, bon, il a une condition physique exceptionnelle. Après, par contre, je pense que niveau gestion de la course, il va pas jouer très ferme. Après, que ce soit Landa, je sais qu'il sera très fort. Il y en a d'autres. On va dire que je pense que les cinq premiers, là, il y a un petit groupe qui est très, très difficilement accessible. Après, derrière, par contre, c'est un peu plus accessible. Ça se jouera sur des petites erreurs, sur bien être, voilà, gérer la course, être tout optimisé, quoi.
D'accord. Et pour revenir à toi, donc tu nous parlais un petit peu du Tour de Romandie également. Si on regarde les courses auxquelles tu as déjà participé, la Méditerranéenne, le Tour du Haut-Var, Tirreno, le Critérium International ou encore donc la Romandie, et puis quelques courses d'un jour. Est-ce que ce qui s'est passé jusqu'à présent dans cette saison est conforme à tes attentes ou il y avait déjà un moment très fort programmé avant le Giro pour toi?
Ouais, bon, après, j'étais en bonne condition depuis le début d'année. Alors, souvent, par contre, j'ai fait le programme avec Thibaut Pinot. Donc, souvent, ouais. j'étais plus dans un rôle de coéquipier que de leader. Donc, c'est un peu différent. Mais après, voilà, j'étais vraiment satisfait de ma condition physique, là, jusqu'au Giro, vraiment. Ça s'est bien goupillé.
Bon, mais je crois qu'on a fait le tour un petit peu sur les nouvelles, Julien, ouais.
J'avais une question, mais je l'ai perdue.
Moi, j'en ai une, par contre, mais je ne l'ai pas perdue. C'était pour savoir, vu tes progrès dans le contre-la-montre, tout comme ceux de tes équipiers de la FDJ cette année, est-ce qu'on part avec un état d'esprit différent quand on sait qu'on peut reprendre du temps sur quasiment tous ses opposants au classement général dans les contre-la-montre?
Ouais, effectivement, c'est un bon atout. Ouais. C'est un bon atout. C'est vrai que c'est peut-être la première année où j'arrive dans cette configuration, on va dire, que vu les chronos que j'ai fait depuis le début de saison, voilà, je peux espérer faire des chronos intéressants autour d'Italie. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est que il y a deux chronos. Bon, il y a le premier, mais il y a surtout le deuxième là, un chrono de 40 km tout plein. Et je me dis que voilà, d'être performant sur cette journée-là, ça sera important parce que ça peut me permettre d'aller rechercher du temps sur mes adversaires. Et c'est vrai que c'est quand même un point important.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait cet hiver. On le disait à début de saison avec Mathieu Ladanius, vous avez sacrément bossé au niveau des contre-la-montre, que ce soit au niveau du matos que de la réparation, quoi.
Ouais, effectivement, ouais. Je pense que le vélo est efficace et puis bon, on l'a travaillé individuellement aussi, donc c'est sûr que ça apporte beaucoup, ouais, ça apporte ses fruits maintenant. Ouais.
Bon, on va remercier Alex et puis lui laisser profiter un peu des Pays-Bas avant de monter sur le vélo. C'est quoi le programme de la soirée d'ailleurs, Alex?
Rien de spécial, là, on va aller manger. Je pense que le briefing général du Tour d'Italie, on l'aura demain.
D'accord.
Mais non, là, on va aller manger et après se reposer parce que c'est vrai que, enfin, moi, là, je suis arrivé vraiment très fatigué.
Ok, bon, on va te laisser.
J'ai besoin de dormir.
Ouais, et justement, comment tu vas gérer, c'était ma question que je retrouvais, comment tu vas gérer, tu as dit que tu arrivais un peu avec de la fatigue. Comment on gère sur 3 semaines cet aspect fatigue pour essayer de récupérer être au top le plus possible?
Ouais, effectivement, voilà, le but, ça va être déjà de bien dormir là, les quelques nuits qui arrivent. Et puis après voilà, sur les 2 premières semaines, de bien faire attention à se coucher tôt, voilà, optimiser, voilà, des fois le matin de rester au lit un petit peu plus d'essayer d'optimiser les journées, quoi, pour se reposer le plus possible. Ouais.
Bon, dans
une course, voilà, en course aussi, ce sera ben voilà, de faire un peu à l'économie, mais bon, ça c'est tout le monde pareil, quoi.
Ouais, pour tout ce qui est sommeil, vous prenez vos oreillers, vos traversins, pour essayer de trouver un petit peu, de garder vos repères, pour essayer de récupérer le mieux possible, ou parce que bon, on sait que d'un hôtel à un autre, c'est toujours compliqué.
Ouais, exactement, ouais. Moi, j'ai le kit complet, hein, j'ai le traversin et la couette.
Effectivement,
je pense que ça fait déjà un petit moment que je fais ça. Après, ça prend de la place dans le sac, mais d'avoir sa couette, c'est vrai que bon, là on est aux Pays-Bas, on a des, voilà, les lits sont très bien, mais des fois en Italie on tombe dans des petits hôtels et pas forcément, voilà, très récents, et c'est vrai que des fois d'avoir rien que son oreiller et sa couette, ça permet de passer une bonne nuit et une nuit réparatrice aussi.
Bon, ben super. Et ben, on remercie Alex pour toutes ces précisions. Et puis, on lui souhaite un bon Giro. Ça sera quoi un bon Giro, Alex? Ça sera au moins aussi bien que l'an passé, peut-être une étape, c'est ça?
Ouais, au moins aussi bien que l'an passé. Après, voilà, ouais, si j'aimerais arriver à me faire plaisir là, sur une étape, voilà, un petit groupe qui arrive au sprint ou une arrivée en bas du, après un col ou quoi, ça me plairait. Ouais.
Bon, et ben,
tout ce qu'on te souhaite.
On va lui souhaiter ça. On te remercie d'être passé dans Radio Vélo, puis on te souhaite un bon Giro, une bonne continuation, Alex. Merci.
Ça marche. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée. Merci,
ciao.
Au revoir. C'était donc Alexandre Géniez en direct dans Radio Vélo.
Leur traversin, leur couette, tu vois, c'est
la Sky, ils déménagent, quoi. La Sky avait commencé à faire ça, ça avait pas mal fait parler qu'ils amenaient leurs oreillers, leurs draps, leurs couettes.
Il y en a plein comme elles, leur cantine aussi.
Il y a beaucoup de pouvoir.
Ben ouais. Oui.
Bon, moi je dors sans oreiller, ça règle le problème, mais ça me semble logique. Ouais. Ouais.
Il parlait du sommeil, je me demande si c'est pas lui qui avait parlé sur un Tour de France qu'ils optimisaient tout, ils essayent des fois de dormir 10 minutes de plus. Parce que comme il dit, 10 minutes au bout de 3 semaines, eh ben, ça fait
210, ça fait 3h30.
Voilà, 3h, 3, 4 heures de sommeil de plus à la fin du tour, ça peut compter. Donc voilà, ils optimisent même ça. Parce que ça fait partie aussi de la récupération, le repos.
Tout à fait.
Et le Giro, donc c'est le premier grand tour pour certains.
Par contre, il a parlé d'un contre-la-montre tout plat, de 40 bornes. Je suis pas sûr qu'il soit aussi plat que ça. Hein.
Non,
il a deux belles bottes.
Il est pas plat. Il est plus plat que l'autre, en tout cas.
Génial, jusqu'à 6%, c'est plat.
Ouais. Voilà. Non, mais
quand tu fais 50 bornes de fixie au Tour de Rodez le lendemain du Tour de Romandie, un chrono, c'est plat.
Non, mais Alex, qui en tout cas a vraiment l'occasion de faire quelque chose de sympa, je pense, ben, sur ce Giro.
C'est le français du Giro. Ces dernières années, on l'a vu plusieurs fois dans le top 20, puis dans le top 10. Ouais. Moi, je me souviens, c'est pour ça que j'ai posé la question sur les conditions qu'il avait attaquées dans la grande étape où il neigeait, là, où Quintana a dépassé là, ouais, le drapeau rouge. Dans le Stelvio, il avait attaqué en contre. Il avait fait une belle étape également. Et c'est un coureur qui s'accommode facilement des conditions difficiles, qui récupère bien, puisque en troisième semaine, souvent, il récupère des places. Donc, je pense qu'encore une fois, oui, il peut faire dans le top 10.
C'est devenu un très, très bon coureur. Ça sera, eh bien, son troisième Giro consécutif. 13e en 2014, 9e en 2015. Et donc, mieux. Il a gagné combien de places, hein? 4 places la dernière
cinquième,
fois.
Top 5.
Allez, cinquième, bon. Top 5 pour Alex. C'est pas impossible, il peut le faire. Allez, en tout cas, on sera de tout cœur. Et derrière lui, je disais que c'est le premier grand tour pour certains, notamment certains qui brillent parfois à la Ronde de l'Isard. J'ai vu que peut-être ce serait le premier grand tour de Simone Pettini, le dernier vainqueur de la Ronde de l'Isard à seulement 23 ans.
Déjà.
Dans l'équipe Lampre, en tout cas dans les partants provisoires. Hein. Il faut confirmer tout ça.
Je crois que hier, on la Sky, tout était confirmé.
Ouais.
Si tu vas sur Pro Cycling Stats, t'as voilà, les équipes.
La Bible de notre ami. Le temps que je clique et tout. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? Ouais, pour Alex, c'est bon, on a été complet. Ouais.
Par contre, il risque d'être un peu seul en montagne à la FDJ, parce qu'hormis Arnaud Courteil, ça ne monte pas trop ses équipiers. C'est surtout des coureurs pour aider Arnaud Démare à remporter un sprint avec Delage, Sarro.
Fischer, Konovalovas, Le Gac, ouais. Sarro, Vaugrenard, Courteil. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'aider.
Après, il devait y avoir Elissonde pour l'aider. Le souci, c'est que Kenny Elissonde s'est blessé en début d'année. Du coup, ça faisait un peu trop court pour faire le Giro et il préparera la Vuelta.
La Vuelta, ouais. Ben ouais, ouais. Écoute, Petit, il lit hein, sur ton site.
Eh bien, dans ce cas, s'il y a le petit V vert à côté de la sélection de l'Ambre, c'est que ça a été confirmé par l'équipe, donc il sera sur le Giro.
Il y a ton pote Roberto Ferrari aussi, hein, Julien, celui qui a sauté le fameux trottoir de la Ruta Deli, tu te souviens.
Exact.
On referme la page Giro. On va s'acheminer vers. Tiens, chronique matos par exemple, vu qu'on l'a pas fait tout à l'heure, et puis on passera un petit coup de téléphone également à Mélanie après ça. C'est parti. Et donc, sous l'œil attentif de Sylvain, Guillaume va distiller sa petite chronique matos. Les nouveautés, alors ?
Pas trop de nouveautés.
Pas trop de nouveautés, des essais, des bricoles, des cadeaux, qu'est-ce qu'on fait ?
On va reparler des disques encore.
Encore ?
Parce qu'apparemment, l'UCI réautoriserait les tests de disques à partir du mois de juin, sans doute au Dauphiné.
D'accord.
Alors je sais pas si c'est la pression des fabricants
avec des modifications apportées,
avec des modifications donc les disques auraient des bords ronds automatiquement, plus comme Shimano, je crois qu'il y avait des petites encoches
pour mieux refroidir. Oui.
Ouais, et la possibilité de recouvrir le disque, l'UCI autoriserait une protection autour du disque, donc à voir comment ça se met en place. Je sais pas comment ça va se passer, mais pareil, alors j'ai vu que Ventoso, un médecin légiste l'avait radé, parce qu'il s'occupe pas que des morts, les médecins légistes, et apparemment ça serait plutôt un plateau qui l'aurait blessé. Ça serait pas un disque.
Ah, mais ça m'étonne qu'à moitié, c'est pas une possibilité.
Voilà, donc, bon, voilà, l'UCI, il repartirait sur les disques.
On peut pas tout arrêter comme ça, parce qu'il y a un mec qui s'est blessé, soit on sait ce qu'on fait, soit on ne sait pas ce qu'on fait. Après, l'interdire pour Paris-Roubaix, ça me paraît possible. Parce que c'est vraiment une course où on peut vraiment tomber de partout, plus que les autres. Mais...
Ouais, mais sincèrement, Sylvain peut le dire aussi. Les plateaux, c'est aussi dangereux qu'un disque, quand même. Si tu rates bien, c'est même avec des dents en plus. C'est encore plus dangereux. Aujourd'hui, le disque, on rajoute, mais quelque part, c'est un accident, quoi.
C'est un accident, exactement. C'est comme tous les drames qui nous touchent. On peut juste baisser les probabilités, mais on ne peut pas tout maîtriser.
D'ailleurs, il y a Canyon qui a publié un sondage aujourd'hui qui demande justement aux gens s'ils sont intéressés par les disques, qu'est-ce qu'ils pensent des disques. Donc, vraiment, les marques là qui commencent à pas vraiment tâter la clientèle, savoir finalement ça vous intéresse ou pas. Parce que Là, je pense qu'ils savent pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vélo.
Le problème, c'est qu'on tâte plus beaucoup la clientèle. C'est que la gamme 2017, elle est déjà dans les tuyaux. Enfin, les fabrications sont déjà lancées. Alors, il y a des marques qui ont fait un peu machine arrière par rapport aux décisions de l'UCI. Maintenant, j'ai eu des fuites. Alors, une fuite concernant une marque espagnole qui commence par Or et qui finit par BA. Ils ont fait des tests. Ils ont essayé de mettre un carter de protection sur le disque. Ça allait très bien jusqu'à s'apercevoir que quand on enlevait la roue, ça passait plus.
Oui, c'est ça le problème. Donc,
après,
quoi.
Moi, le disque, voilà, on en a parlé souvent avec Guillaume. Pourquoi le disque serait-il indispensable à la route? Jusque-là, les freins freinaient très bien. Alors, c'est sûr, ça fait un peu rétrograde de dire, ouais, le disque, ça sert à rien. Maintenant, il y a des disciplines où on n'a pas de fourche télescopique, comme la piste, par exemple. Il n'y a pas de guidon de chrono sur les BMX. Peut-être que le vélo de route nécessite pas forcément l'utilisation des disques. Après, c'est comme le WRC, la Formule 1, c'est des voitures et pour autant les règlements sont différents. Donc après, là c'est le problème, c'est du business quoi. C'est les marques qui poussent pour dire on va inventer quelque chose de nouveau.
Je suis d'accord avec toi parce que aujourd'hui on a des freins classiques qui freinent hyper bien. On a une force de freinage qui est supérieure à l'adhérence du pneu. Donc quelque part.
C'est ça. On en parlait tout à l'heure sur mon vélo de tous les jours, j'ai des disques. Même sur le sec, parfois quand on se fait surprendre par une voiture, il faut avoir vraiment les doigts légers pour pas glisser. Moi, je suis lourd. Quand je vais au boulot, j'ai souvent les sacoches bien remplies. Ouais, ça fait un train roulant de 110 ou 115 kilos et pour autant, ça glisse quand même.
Quand
c'est sec. Alors, des coureurs qui font 65 kilos, qui vont descendre un col à 100 km/h, la surface de freinage, c'est pas la même. Hein. Mavic conseille du 28 mm en pneu minimum pour que ça tienne au sol. D'autres marques américaines, comme SRAM par exemple, ont fait des tests et se sont aperçus. Ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir garantir 3 descentes de col avec les mêmes plaquettes. Donc il y a encore pas mal de paramètres. Alors c'est vrai que le dérailleur avait mis 7 ans entre sa création et le Tour de France. Peut-être que le disque n'est pas encore prêt dans sa forme actuelle.
Bon, d'autres infos, Guillaume?
Non, pas d'autres infos. Je voulais demander justement à Sylvain, est-ce que vous avez des clients qui sont vraiment en attente d'une décision de l'UCI pour se lancer sur un vélo avec frein à disque? Parce qu'on sait qu'actuellement, les cyclosportives en tout cas, ou même les courses FFC, interdisent toujours les disques. Donc, est-ce que vous avez vraiment des clients qui attendent une décision pour faire leur achat?
Pas spécialement, et paradoxalement, hier, j'ai un client qui m'a téléphoné en me disant, alors ça y est, c'est sûr, on va pouvoir utiliser les disques. En 2017, tout le monde va avoir des disques. J'ai dit, moi, j'en sais pas plus, quoi. Enfin, l'UCI l'autorise, l'interdit, l'autorise. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'infos, mais les marques poussent. Ça, c'est sûr que les marques poussent parce que ça fait déjà 2 ans que c'est dans les tuyaux et ils voudraient bien quelque chose de nouveau. Donc, quoi faire? Je pense qu'on pourrait peut-être aussi remettre en cause la transmission. Ça fait 100 ans qu'elle existe et pourtant on a un rendement des plus abominables. Donc, pourquoi? Pourquoi le disque? Pourquoi pas? À voir.
Voilà, au mois de juin, on verra ce que fait l'UCI.
Merci voilà. Guillaume, qu'on retrouve bien sûr sur le site Matos Vélo. Merci Sylvain. Et vous restez avec nous, bien sûr, pour parler de la Rando Rallye de Novial. Et puis, on va faire la chronique régionale tout de suite, Julien, régionale avec Mélanie qui est avec nous. Mélanie, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Bienvenue Mélanie, en direct de Toulouse. Donc, quelles sont les infos du côté du comité régional
Midi Pyrénées? Toujours dans les bouchons toulousains, toujours ou pas?
Ouais, ben là, j'essaie de rentrer chez moi, donc je vais mettre autant de temps, donc une heure pour faire 4 km, génial. Pour le comité, je vais juste vous annoncer un peu les courses de ce week-end.
Vas-y.
Et de demain.
Vu que ce week-end est long, vas-y.
Voilà. Demain, donc 3 courses, une rencontre des écoles de cyclisme à Brousse, une course pour les 2e, 3e juniors et PCO à Villefranche-de-Rouergue. Et surtout, donc, le championnat Midi-Pyrénées de scratch poursuite et poursuite olympique à Villemur. Donc, voilà pour demain. Et ensuite, dimanche, on a le XCO de Lectour, le Grand Prix du Chêne Vert à Tarbes, la 4e étape du Tour du Temps Cadet entre Castres et Saint-Paul-Cap-de-Joux, la 1ère manche du trophée Cervari à Sébazac, et enfin une autre épreuve école de vélo à Villeneuve-Tolosane. Voilà pour les courses du week-end, avec donc en point d'orgue le championnat Midi-Pyrénées sur piste demain. Autre information, on a une sélection qui part ce week-end à la Coupe de France Junior sur piste à Grenoble. Donc bon, je vais vous énoncer les coureurs et féminines présentes sur cette Coupe de France. Donc on a Cédric Brière, Clément Deleyen, Valentine Fortin, Thibaut Malbreil, Eva Aurillac et Quentin Rossini. Donc c'est les garçons vont eux faire la Coupe de France et ensuite enchaîner en fait avec l'épreuve de Sébazac. Donc week-end chargé pour nos cadets. Et donc lundi, une autre sélection part pour la Coupe de France de l'Américaine. Donc toujours de la piste. Donc c'est dans la région parisienne. Et donc nos sélectionnés sont Cédric Brière, Clément Deleyen, Lucas Destin, Thibaut Malbreil et Rémi Verardeau. Donc voilà pour les petites infos du comité.
Eh bien merci Mélanie. Et donc la piste à Villemur, c'est le championnat, comment on dit, championnat régional, t'as dit?
Voilà, le championnat régional, donc il y aura trois disciplines, le scratch, la poursuite et la poursuite olympique.
La poursuite olympique avec notre ami Max qui n'est pas là ce soir parce qu'il peaufine les derniers réglages avec le team Payname, on lui fait un petit coucou, on n'aura pas le temps de l'appeler malheureusement, il nous racontera ça la semaine prochaine. Merci Mélanie, on se dit à très bientôt, profite bien du week-end, repose-toi un peu.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut. Voilà pour les infos. La piste, c'est spectaculaire. C'est à Villemur, en plus, c'est juste à côté du studio, Julien.
Oui, c'est juste à côté. C'est une piste particulière parce qu'elle développe 433 mètres si je me, à quelques mètres près, alors qu'une piste habituelle de 150 mètres. Voilà, c'est particulier. Surtout que cette année, enfin, ça fait quelques années que ça compte pour le trophée des jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir, les minimes et cadets, participer à ces épreuves-là. Donc, ça va relancer un petit peu la piste. Et voilà, ça fait partie de l'école de vélo, comme les autres disciplines. Donc, on aura du beau temps demain. Donc, de superbes disciplines que sont la poursuite olympique et le scratch. Voilà, donc, trois épreuves sur la journée va être bien complète.
Rapidement, notre ami Jean, il nous a envoyé un télégramme tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as retenu? Il disait, il parlait de Corentin Roux, c'est ça?
Oui, Corentin Roux qui arrête le vélo. Voilà.
C'est une info de Jean ou c'est...
Non.
C'est paru sur Direct Vélo.
C'est paru sur Direct Vélo, ça, moi, je l'ai appris donc semaine d'avant. Et du coup, il s'est senti pas... plus à l'aise, quoi, plus dans son milieu, plus dans son monde, et il a préféré, c'est tout à son honneur, à dire voilà, je ça me convient plus et je vais faire autre chose, quoi. Je suis plus heureux dans mon milieu de travail que sur le vélo, donc c'est bien pour lui. Après, voilà, est-ce que ce sont ces années passées dans certains clubs qui peut-être l'ont, je sais pas, faut vraiment savoir parce que c'est pas facile, c'est assez bizarre, quoi.
Voilà, on verra s'il revient un jour,
après il nous envoie des infos, de la ronde de l'Isard avec les quatre étapes.
Qu'on présentera dans les prochaines semaines et je te propose, Julien, qu'on prenne un organisateur au téléphone pour faire le point avec lui. C'est ça, il est prêt, Sylvain, notre ami?
Pas encore. On l'appelle.
D'accord, très bien. Du coup,
Il y avait une petite info. Il y avait, il y a un trophée Madio qui s'est déroulé donc à Châteaubriant. Donc il y avait une sélection départementale avec voire régionale. Il y avait Nathan Mandepit qui prend la 5e place du contre-la-montre et qui prend la 10e place de la course en ligne. Voilà, il y avait qui c'est qui avait été au Crescence aussi. Il y avait Erwan Soulier. Il y avait pas mal de monde. Voilà. En info, donc un trophée maillot qui est très très disputé. Hein.
Très disputé, bien évidemment, course prestigieuse pour tous ces participants. Sylvain, nous avons au téléphone Jean-Claude Ponce, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc Jean-Claude, un des 200 bénévoles organisant la rando rallye de Novial, donc dans l'Aveyron. Voilà, une rando rallye qui existe depuis 26 ans maintenant, donc c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait, enfin, pour l'histoire, Jean-Claude m'a remémoré qu'il y a maintenant presque une vingtaine d'années, un petit Alexandre Geniez avait gagné la version cross-country.
Ah, on aurait pu lui faire le clin d'œil tout à l'heure, nous l'avons eu. Jean-Claude Ponce, est-ce que vous nous entendez?
Oui, très bien, bonjour à tout le monde.
Bienvenue en direct d'un Radio Vélo, et oui, émission 100% Véronaise avec Alexandre Géniès tout à l'heure, et donc Jean-Claude Pons, membre du comité FED qui organise ce rando rallye de Novial. Alors, en quelques mots, Jean-Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, comment vous décririez cet événement?
Bon, mais je décrirais tout simplement, Novial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village de 500 habitants qui est situé dans le vallon de Marciac, à 25 km de Rodez, entre Conques et Marciac. Alors, nous sommes une petite association qui, vous savez, il y a 26 ans de ça, le VTT, c'était le début. Et nous, on fait tous un peu de sport dans cette association, et on a dit pourquoi pas essayer de faire une course à l'époque. Et il y a 26 ans, on était 60 au départ, et c'était nouveau, ça arrivait des États-Unis, le VTT, et Sylvain peut le confirmer. Petit à petit, de fil en aiguille, donc on a organisé sous l'égide de l'UFOLEP, donc un championnat départemental à Véron, puis ensuite le région, pour finir en 2014 par le championnat de France UFOLEP en course VTT. Et cette année-là, justement, nous avons souhaité créer une épreuve un petit peu parallèle à la compétition, qui était... on avait la chance d'avoir des jeunes de toute la France qui sont venus nous rencontrer. Et on a créé une rando gastronomique aux produits régionaux. Vous savez, l'Aveyron, c'est un petit peu comme le Gers, il y a de très bons produits. Et on a mis ça à disposition de nos coureurs, de nos randonneurs, je dirais, le samedi. Et on a eu un gros succès, puis de fil en aiguille. Ça fait maintenant plus de 26 ans qu'on le fait, pour arriver à 1300 personnes sur ces deux jours.
Ces deux jours, rappel des dates peut-être, s'il
vous plaît. Voilà, les dates, c'est bientôt tout de suite. En fait, c'est samedi et dimanche, donc samedi 7 mai et dimanche 8 mai. C'est toujours le samedi de l'Ascension. Donc ça permet aux gens qui viennent d'un peu partout de pouvoir se poser quelques jours en Aveyron et de se ressourcer. Voilà, dans ce petit écrin un peu privilégié. Enfin, Alexandre aurait pu en parler, c'est que par rapport à Rodez, c'est plus bas en altitude, donc c'est toujours des températures un peu plus agréables. Moi, j'aimais bien y rouler à l'époque où on écoutait la radio, pas à la TSF, mais sur un radio cassette ou sur un transistor. Et c'est vrai que depuis toujours, je passais là, et le jour où j'ai appris qu'il y avait autre chose que des pneus lisses, je suis allé poser mes crampons là-bas, et quand je ne peux pas y aller, c'est vraiment la mort dans l'âme.
c'est dire l'intérêt qu'il y allait là-bas. Benjamin, Guillaume, des questions peut-être pour en savoir plus?
Ouais, je voulais demander à Jean-Claude, combien il y a de ravitaillement sur, je sais pas, l'épreuve peut-être de 80 km ou,
c'est très simple. Tout d'abord, en termes de circuit, on essaye de toucher tout le monde. Ça commence par 15 km, 20, 40, 60 et 80. Et pour vous donner une info, je crois que c'est en exclusivité sur Midi-Pyrénées, même peut-être en France, on a un ravitaillement gastronomique tous les 5 km. Tous les 5 km, la plupart sont en musique, nous avons des groupes de musique dessus. Alors vous comprendrez que quand on fait des ravitaillements tous les 5 km, où il y a des groupes de musique, de l'animation, des gens déguisés, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'entendais tout à l'heure d'Alexandre. C'est à l'opposé, l'antithèse d'une course, d'une compétition. On est là pour se faire plaisir, on est là pour donner du plaisir, partager, faire un peu de sport. Et puis on a notre région qui est magnifique. Moi, je suis amoureux du vallon de Marciac, certes, mais on a des gens de toute la France qui viennent. Et la plupart des gens, les deux choses qui reviennent essentiellement, c'est la beauté des paysages et l'accueil des gens. Et c'est vrai que quand on y a goûté une fois, on a envie d'y revenir. On essaye de pas se prendre la tête, on essaye de faire les choses les plus simples possibles. On essaye de maintenir les prix, on essaye de donner du plaisir, et je crois que les gens nous le rendent bien.
Donc aucun risque de fringale sur l'épreuve, apparemment. C'est
très rare, oui.
C'est m'étonne.
Je crois pas. Je crois même une année... Pour la petite anecdote, Jean-Christophe Perrault, que vous connaissez tous, est en train de s'entraîner pour, je sais plus,
pour le tour. Il préparait le tour, il était dans les Pyrénées et venait prendre deux jours de neige. Et il m'a appelé le vendredi matin, il m'a dit « C'est où, Novial ? J'arrive. »
Et pour la petite anecdote, à la fin, on l'a interviewé, parce qu'il y a un animateur qui anime un peu tout ça, et il a dit c'est la seule épreuve où j'ai pris plus de poids que à l'arrivée qu'au départ, parce qu'il a goûté des crêpes au Nutella notamment, il en avait mangé quelques-unes.
Il a chantilly.
C'est une petite anecdote croustillante.
Et voilà. vous parliez des tarifs tout à l'heure, quels sont les tarifs pour s'inscrire? Est-ce qu'on peut s'inscrire d'ailleurs directement sur place?
Toutes les infos sur novial.com, il y a bulletin d'inscription et tout. Ceci dit, nous on essaye de maintenir les prix le plus bas pour que toute la famille puisse participer, mais pour vous donner juste un ordre d'idée, la rando 80 km elle est à 14 €. Ça commence de 10 à de 8 à 14 €, donc quand on a un cadeau, on offre un cadeau, on a tous ces ravitaillements, bon, on essaye de maintenir au plus juste et ne pas faire comme des grosses manifestations de l'argent sur le dos des participants. C'est pas du tout l'esprit.
Bon, on a été complet, Sylvain.
Juste un petit détail, je pense que voilà, le chiffre pour moi qui prouve que la Rando Rallye est une réussite chaque année, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, il a pas fait beau. Alors c'est assez rare, et cette année, je crois que vous allez encore avoir la chance d'avoir du soleil. Mais il y a 2-3 ans, il faisait pas beau toute la nuit. Enfin, il est tombé des cordes, et le matin, il y a eu 900 personnes. Donc oui, je pense que ça, c'est quand même un signe. Si les gens se déplacent malgré une météo peu clémente, c'est voilà, je pense que ça résume un peu tout.
Merci alors Jean-Claude.
Merci de m'avoir invité.
D'être passé dans Radio Vélo.
Dernier petit clin d'œil, c'est pas sous l'égide du CI, donc les disques et les moteurs sont autorisés. Le plaisir également.
Autorisés, et vous êtes tous invités avec grand plaisir à découvrir. Mais je crois que notre plus beau ambassadeur, c'est Sylvain d'Angreville qui est parmi vous, et qui, quand il en parle, ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est quelqu'un, c'est un très très bon ambassadeur pour nous, et je tenais vraiment à le dire.
En plus, il sera pas là cette année, donc les ravitaux, il y en aura un peu plus.
Il y en aura plus pour tout le monde. Il y aura moins de chantilly.
On coche la date pour la grosse sortie Radio Vélo l'an prochain, en tout cas. Merci Jean-Claude Ponce d'être passé dans Radio Vélo, et bon Rando Rallye pour ce week-end.
Merci pour votre émission qu'on écoute régulièrement, qui est très très sympathique quand on aime le vélo.
Eh bien, merci. Merci à vous.
Bonne soirée.
Donc c'était Jean-Claude Ponce du comité des fêtes. Ouais, c'est un comité des fêtes qui organise ce Rando Rallye de l'âne de Novial.
Ça donne envie, mais pas quand tu fais de la compète.
Attends,
mais
si j'y vais l'an prochain.
Tu fais le ravito 80 mois, tous les 5 km en ravito, mais alors, si tu pars le matin, tu arrives le soir.
Non, mais c'est vrai que ceux qui font le 80 km ont un esprit un peu plus compétition.
Et ça arrête
nous,
pas.
On fait souvent le 45 pour pouvoir rouler entre copains et puis profiter. On met entre 5 et 6 heures. Je sais qu'il y a eu des cas de gens qui se sont arrêtés au premier ravitaillement et qui n'ont jamais été plus loin. D'autres qu'on n'a pas vu après le dernier.
Je recasse les différents parcours. C'est sur le site novial.com. Il y avait 25 km, 40, 60, 80, 15. Le repas avait été aussi du samedi soir. Et puis dimanche, rando pédestre 12 km, course nature et marche nordique 12 km, trail 25 km. Quelle organisation doit vraiment y avoir, beaucoup de boulot.
C'est l'état d'esprit qui
règne. C'est l'état d'esprit. Alors c'est vrai que ce qui moi me plaît à Novial, c'est que c'est pas un club de vélo qui organise, c'est vraiment le comité des fêtes. Donc c'est vraiment fait dans cet état festif. Donc il y a des bandas quasiment à tous les ravitaillements. Enfin c'est 200 bénévoles. Alors quand Jean-Claude dit qu'il y a 500 habitants à Novial, comment on fait? Ben dans chaque commune, il y a des gens qui se proposent pour. Alors il y a le dernier ravitaillement. Pour moi, c'est le plus symbolique, c'est les crêpes. Donc là, c'est déjà, ça sent les crêpes dans tout le vallon, d'une vallée à l'autre, et peut-être même d'une année sur l'autre.
Ah, c'est un boulot monstre, faire des crêpes à chaque fois.
Chaque fois, je fais mon petit papier là-dessus. Quand le matin, on les voit débarquer avec les seaux de pâte à crêpes, avec les palettes de Nutella, c'est quelque chose, il faut
et le tout pour à peine 10 €, donc
ouais, c'est ça, il y a ce budget pour 14 €, tu t'arrêtes à tous les t'as mangé pour la semaine.
Je crois que Nicolas va y aller
l'an prochain, jeudi, c'est clair.
Si je retrouve la condition, là c'est parti, là
c'est pas les mêmes tarifs.
Alors de quoi faire le week-end là-bas?
Attention, l'Aveyron, c'est pas plat.
Non, c'est pas grave,
parce que 45 km, on est vite à 1200 1300.
Si je reviens, c'est le 15 ou le 25, ça suffira.
Il y aura de prendre un vélo avec un petit moteur.
Voilà, très bien.
Même un gros moteur, faut pas non plus.
On a été complet. On va remercier Sylvain d'Angreville d'être venu passer ce moment avec nous à Radio Vélo. C'était un plaisir pour nous.
C'était un plaisir partagé. Merci.
Merci. Tu reviens quand tu veux. Guillaume, Benjamin.
T'as pas donné ton vainqueur du Giro.
Tu t'échappes pas. Vous n'êtes pas facile.
Alors.
Non, franchement, c'est difficile. Allez, Rigoberto Urán, voilà, au moins il y a de la côte, voilà, Rigoberto Urán, au moins vous pourrez rigoler quand il n'y aura pas gagné, comme d'hab, mais bon, bref, Rigoberto, allez. Bonne semaine à tous, à Radio Vélo, bon week-end prolongé, bonne piste, bonne Giro.
Bonne randonnée.
Bonne randonnée, ouais.
La randonnée la semaine prochaine.
Bon appétit.
Déjà la randonnée la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Ciao, ciao. Au revoir.